Alors, ce petit bouquin, moi, m'a été commandé par les éditions du Détour quand j'écrivais le gros livre. Et ce livre, c'était l'émancipation entravée. Donc, j'essayais de regarder le 20e siècle, du 19e siècle, et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour que l'idée d'émancipation soit à ce point oubliée ou presque au 20e siècle, et comment les idéologies s'étaient substituées à l'auto-organisation, si je résume de manière un peu rapide. Et donc je fais une critique systématique de toutes les idéologies libérales, marxistes orthodoxes et maoïstes, sans oublier le structuralisme, qui a abouti justement à cette perversion du maoïsme, d'une certaine manière, avec Althusser. Et j'essaye de comprendre la manière dont toutes ces idéologies, en imposant un principe de pensée figé, a laissé en quelque sorte de côté toute la tradition de l'auto-organisation du 19e siècle, auto-organisation qui n'était simplement qu'un moyen de survie pour les ouvriers et les ouvrières qui n'avaient pas de droit quelconque, et donc s'auto-organiser était une question presque vitale. De là est né justement, selon la tradition réelle marxiste, l'idée de l'international, puisque l'international est intervenu au moment où justement il était question que les ouvriers s'auto-organisent pour se libérer eux-mêmes. La première internationale a été suffisamment éloquente de ce point de vue-là, mais dès la deuxième internationale, il n'était plus question que d'auto-organisation. On a confié en quelque sorte l'émancipation des autres à une élite. Une élite à des professionnels du politique, et donc tout le XXe siècle est marqué par les professionnels. J'ajoutais toute une réflexion sur la manière de déléguer les pouvoirs, et donc par la délégation du vote, et contrairement à ce qu'on pense, la démocratie dans laquelle nous sommes n'est pas une véritable démocratie, c'est simplement une démocratie dite représentative qui avait commencé à être mise en œuvre dès les monarchies restaurées, donc dès les années 20, par l'intermédiaire des deux rois, dont frère de Louis XVI. Et cette dimension-là a été reprise, enfin cette représentation a été reprise par la Troisième République. Et à ce moment-là, on a pensé qu'il y avait fusion et donc confusion entre République et démocratie. Alors, comme c'était un énorme livre et qui est lu effectivement, j'ai entendu aussi le même qui présente Mais où est passée l'émancipation sur Internet. Il avait présenté ça. Et les commentaires, c'était énorme. Énormité des références. Il faut être savant pour lire ça. Etc. Donc, une petite maison d'édition. Je vous assure que non. Hein, ça se lit très bien. Et une petite maison d'édition, pendant que j'écrivais, les éditions du Détour, m'a demandé ce petit livre. Donc, ce que j'ai voulu faire pour trancher avec la tradition un peu savante, entre guillemets, c'est de tenter d'interroger la nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qu'on appelle la génération Z, 15-25 ans, pour savoir comment ils imaginaient l'émancipation, comment ils vivaient l'émancipation et comment cette génération vivait l'émancipation. Et je suis allée à l'école Estienne, invitée par le prof de philo, Jérôme Duhois. Il m'avait demandé de faire un exposé sur l'utopie parce qu'il pensait que ses étudiants avaient une forte tendance à imaginer les dystopies, mais en oubliant ce que c'était que l'utopie. Donc j'étais venue faire l'exposé sur l'utopie, et en même temps, je lui ai dit, voilà, je commence un livre, je ne sais pas trop par quoi commencer. Il m'a dit, ça tombe bien, j'ai des groupes d'étudiants qui sont en train de terminer leur mémoire, et ils sont quatre par équipe, et donc chacun étudie la manière dont leur génération, justement, s'imagine dans la société présente, aussi bien s'imagine au quotidien, mais s'imagine aussi du point de vue des loisirs, comment ils s'organisent. Et donc, j'ai travaillé avec trois groupes, plus exactement leur mémoire, et on a débattu ensemble. Et le premier groupe essayait d'interroger les réseaux sociaux, et en particulier un réseau qui est d'une efficacité redoutable, ce qu'ils appellent les hashtags That Girl, c'est-à-dire cette manière de se présenter en quelque sorte à ses amis, à ses collègues via Internet. Et donc, il y avait ce hashtag avec des milliers et des milliers de followers. Et c'est une jeune fille, une jeune femme qui se présente et qui explique comment organiser ses journées. Et donc, c'est dans un intérieur ouaté, pratiquement beige, où tout est absolument clean. Elle se fixe un objectif pour la journée, où tout est prévu, la nourriture, le sport, le maquillage et bien sûr la culture de l'esprit. Et tant et si bien que une organisation extrêmement bien faite, où rien ne dépasse, et qui sert de modèle à des milliers de jeunes filles de 15-25 ans, et dans son appartement, il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire, c'est le moi en majesté, dans son triomphe corporel, spirituel, et effectivement, y compris les nourritures terrestres, et il n'y a pas d'autre. Et donc, quand on voit cette présentation de soi dans un monde où l'individualisme est particulièrement valorisé, on se rend compte que cette multiplication d'individus qui se présentent en imaginant une société idéale, bien entendu, c'est quelque chose qui est de l'ordre du modèle. Et à partir de ce moment-là, on s'interroge sur la société en tant que telle, comment reçoit-elle ce type de modèle? Et les étudiants se sont rendus compte que, enfin, le chiffre absolument dantesque de jeunes qui suivaient ce groupe était tel que l'individualisme voulu par le libéralisme, eh bien, a été repris par ce processus et isolait totalement les individus. Dans ces modèles, il n'y avait pas d'autres. Et j'ai continué à travailler avec d'autres, et en particulier avec une jeune femme qui travaillait dans une maison d'édition qui publiait des ouvrages extrêmement là, qui ont un pignon sur rue, si je puis dire. Et donc, c'était antérieur à la New Romance, ou romans gothiques, qui ont une vision du monde extrêmement. C'est même plus l'idéal, mais qui ne correspond pas au réel. Et on s'apercevait que l'émancipation, ben, c'était la valorisation de soi, avec tout ce que ça implique, hors de toute société ou presque. Et tout ça, bien sûr, un pignon sur rue. Et de fil en aiguille, donc j'ai travaillé avec d'autres groupes, et on s'aperçoit avec les groupes, les étudiants, qui eux ont bien les pieds sur terre, quand je leur posais la question sur l'émancipation, eh bien, ils considéraient que dans un premier temps, l'émancipation pour eux, c'était de trouver un travail, bien sûr, contrairement à ce que l'on peut trouver dans les réseaux sociaux, c'était de trouver un travail. Et puis, c'était de se libérer du carcan familial. Donc, je retrouvais dans le réel estudiantin les problèmes quotidiens qui étaient totalement niés ou inexistants dans les réseaux sociaux sur lesquels ils travaillaient. Et donc, ce travail leur avait fait prendre conscience qu'ils passaient une bonne partie du temps sur les réseaux sociaux, si bien que ils se contrôlaient. En dernière instance, on en a reparlé encore lorsque une des jeunes étudiantes est venue aussi à la présentation du livre. Ils se contrôlaient au point que tous ou presque se méfient terriblement d'Internet et sur les malfaisances de l'écran, puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça passe pas par la lecture justement, l'émancipation, mais ça passe par ces images qui figent justement l'idée que l'on se fait de la société, bref. Et donc cette prise de conscience collective, en même temps que je travaillais avec eux, a été d'une efficacité, pensais-je, relativement importante. Et je me suis rendu compte, moi, en travaillant ce petit bouquin, dans un premier temps, que le modèle des réseaux sociaux était multiplié par des milliers d'exemplaires dans la rue. Vous vous apercevez que That Girl, je la retrouvais à la boulangerie un peu partout. Donc, j'ai continué mes investigations. Donc, la réalité des étudiants, c'était le travail, la famille et la religion. Donc, se libérer de la religion, se libérer de la famille et se libérer justement par le travail. C'est donc la deuxième partie du livre, par le travail, où je commence même par là, je crois. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe au travail? Puisque l'émancipation permet justement aux jeunes adolescents de se libérer, eh bien, qu'est-ce qu'il va trouver au travail? Et là, j'ai utilisé les travaux de Danielle Linhart, qui est une sociologue sur le travail et qui décrypte le management actuel où l'individualisme est tel, où on valorise l'individu, l'émotion, l'affect, de façon à ce que on mette au service de l'entreprise ses émotions, ses affects, son histoire, ses problèmes, en évitant justement toute expérience collective. C'est-à-dire que même à l'époque du syndicalisme traditionnel, il y avait cette forme de concertation à l'intérieur des entreprises qui permettait de contourner les obstacles, de détourner justement les difficultés, enfin de contourner les difficultés, de détourner les directives de l'entreprise pour faire en sorte que le travail ne soit pas non plus totalement abrutissant. Or, avec le management moderne, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du collectif est complètement mis à mal. On fait en sorte que les individus soient confrontés avec eux-mêmes en évitant justement toute concertation. Et a fortiori, en évitant bien entendu toute consultation d'ouvrage ou toute lecture. Quand on dit par exemple que la jeune génération ne lit plus, eh bien, la société fait en sorte qu'elle ne lise plus, puisque tout passe par Internet, tout passe par les écrans, les quêtes des règles, ça passe par les écrans. Bref, cette assignation au numérique, d'une certaine manière, est précisément faite pour éviter justement cette concertation collective, ces échappatoires qui passent par le texte et par le débat, donc par des expériences démocratiques. Après ce constat extrêmement pessimiste, j'ai cru bon de faire un retour par l'histoire pour tenter de récupérer justement l'émancipation, comment elle est née, comment elle a existé, comment elle s'est développée. Et donc je suis revenu à l'histoire en deuxième grande partie. Je suis parti d'un constat où l'émancipation collective a été très mal menée à tous les niveaux, jusqu'à au moment historique où on revient à l'idée d'émancipation. Donc, retour à l'histoire, et ce que je disais de manière un peu entre nous avant le début de l'intervention, je suis remonté donc à l'Antiquité romaine, surtout romaine, grec un peu, mais surtout romaine. Grec, c'était surtout le père qui émancipait le fils. Et ensuite, l'idée d'émancipation est venue avec, bien sûr, le père détient le pouvoir absolu, et donc affranchit le fils. C'est comme ça que le fils devient libre. Ensuite, c'est comme ça qu'on a affranchi les esclaves. Et peu à peu, avec la libération collective, on s'aperçoit que un esclave affranchi, c'est pas un esclave libre. Il faut qu'il se libère lui-même. Et donc, il faut attendre justement le processus d'auto-émancipation pour comprendre ce que émancipation veut dire. Et auto-émancipation, donc, ça a commencé avec justement les révolutions et en particulier ce qui s'est passé à Saint-Domingue. Je vous décris pas ce qui s'est passé, vous le connaissez sans aucun doute. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on découvre l'étendue de la catastrophe, puisque Haïti a été conduit en 1825 à payer une indemnité absolument dantesque, puisque les colons ont réclamé une indemnité pour avoir été contraints de libérer leurs esclaves. Et cette situation a été dramatique pour Haïti et on connaît aujourd'hui puisque le chiffre a été donné et on peut dire que des pourparlers sont en cours puisque nous vivons en ce moment une épreuve de vérité à tout point de vue. On voit que le libéralisme nous mène à ce qui se passe aux États-Unis et on voit que l'émancipation des anciens esclaves, l'émancipation des anciens colonisés est inachevée et donc tout se déroule aujourd'hui par une réflexion critique à tout niveau. Je ne vous fais pas l'histoire de la colonisation, on reviendra si c'est nécessaire pour revenir sur cette idée d'émancipation réelle et pour m'arrêter sur la manière dont en France on a vraiment pensé l'émancipation concrète au sens palpable du terme. Et cette émancipation, ça a commencé avec une réflexion sur l'émancipation des Juifs. Alors, ça a commencé assez tôt, avant même que la Révolution décide de donner les mêmes droits de citoyens aux Juifs, avec une exception, celle de l'Alsace. Et donc, un certain nombre de Juifs ont été interrogés, en particulier un rabbin de Strasbourg, au moment où on a lancé une grande discussion sur comment, en fait, émanciper les Juifs. Et ce rabbin de Strasbourg, dont j'ai oublié le nom, mais je le retrouverai d'ici là, a tenté de grand intellectuel, a tenté d'expliquer que, certes, entrer dans la société pour avoir les mêmes droits que tous impliquait deux choses. D'une part, tenter de s'émanciper soi-même de la tradition, et d'autre part, entrer dans la société des semblables, c'est moi qui dis la société des semblables après une réflexion d'un grand philosophe dont on a oublié les travaux, mais qui est quelqu'un de remarquable, Miguel Abinsour, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui a travaillé sur l'utopie en particulier. Et donc, entrer dans la communauté des semblables supposait que cette communauté des semblables accepte l'autre différent. Peu à peu, on se rend compte que l'émancipation des Juifs est quand même relativement incomplète, et je crois que celui qui est allé le plus loin dans la critique de l'émancipation telle qu'elle était donnée officiellement, c'est Bernard Lazare. Et donc Bernard Lazare, fort de l'expérience de l'affaire Dreyfus, à la fin du 19e siècle, donc après que les Juifs aient été émancipés, essaye de comprendre comment on est arrivé là, parce que c'est quelque chose qui a été plus que traumatique pour les contemporains. Et quand on pense qu'avec l'émancipation des Juifs, eh bien, malgré cela, non seulement Dreyfus a été accusé, mais des manifestations énormes, énormes, c'est-à-dire des manifestations de masse antisémites, ont couvert pratiquement les régions françaises où, si les Barrès avaient pignon sur rue, et ensuite que Maurras a pu reprendre le flambeau en toute légitimité, c'est que les multitudes développaient un sentiment antisémite. Ça voulait donc dire que l'émancipation n'était pas réellement intégrée dans les populations. Et c'est la raison pour laquelle Bernard Lazare s'est interrogé sur la manière dont on peut penser l'émancipation réelle. Alors, l'émancipation, à cette époque-là, en particulier avec cette volonté, si vous voulez, de imaginer la liberté après Kant complète et totale est reprise par une grande majorité de la population, en particulier les populations qui sont soumises d'une certaine manière à la servitude volontaire, et donc les populations ouvrières. Et l'émancipation a été définie par Pierre Leroux dans les années donc 25-30, à une époque où l'émancipation était à la mode. Dans tous les journaux, on parlait d'émancipation. Dans absolument tous les journaux, entre 30, après la Révolution de 30 et 34, tout le monde parlait d'émancipation, des femmes, bien sûr, décolonisées, Et l'émancipation du peuple et des femmes, c'était à peu près dans tous les journaux. Donc, qu'est-ce que être émancipé? Eh bien, c'est pas qu'est-ce qu'être émancipé, c'est qu'est-ce que s'émanciper. S'émanciper, c'est s'émanciper de la totalité des tutelles. Alors bien sûr, on reprend un peu toutes les traditions, la tradition kantienne, la tradition juive, c'est s'émanciper des tutelles qui nous enferment, s'émanciper soi-même, donc de la tutelle familiale, de la tutelle religieuse, de la tutelle sociale, et c'est symptomatique d'une société qui, bien sûr, n'imagine même pas des droits pour tous. Donc s'émanciper, c'est parallèlement aux droits accordés aux uns et aux autres, parce qu'on s'aperçoit que les droits accordés aux Juifs sont insuffisants. Donc s'émanciper, c'est s'émanciper soi-même de toutes les tutelles, dirais Kant, dont on est responsable, c'est pas tout à fait vrai à cette époque-là, c'est auquel on est assujetti, et c'est se rendre libre, et être libre, c'est être libre dans tous les domaines, aussi bien sociaux, politiques que domestiques. Et du même coup, c'est une exigence particulièrement globale, une exigence que les sociétés hiérarchiques ne peuvent accepter. Et s'émanciper, ça veut dire que si c'est à la mode entre 30 et 34, c'est que parce que Louis-Philippe n'a pas assis son pouvoir suffisant, puisqu'on disait qu'il était assis justement sur un trône de barricade, puisque lui-même était venu à travers les barricades, et tant et si bien que il essayait, avec la charte, différentes tentatives pour être légitimé, et c'est pendant ce chaos, en quelque sorte, où tous les souvenirs de la Révolution et de la liberté reviennent, que cette question d'émancipation devient de plus en plus prégnante. Et c'est à ce moment-là que les femmes ont commencé à s'émanciper par l'intermédiaire du saint-simonisme. Et donc, des femmes ont publié La Femme libre, où ils expliquent ce que c'est que la liberté. Et on revient aux racines de l'émancipation. Donc, pour trouver qu'est-ce que l'émancipation de façon à pouvoir asseoir cette question, on revient, je dis bien, c'est à cette époque-là qu'on relit Condorcet, parce que Condorcet, pendant la Révolution française, a pratiquement pas été lu. Pratiquement pas, puisqu'il intervenait toujours à contre-temps, et on sait qu'il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'esquisse pour le progrès humain. Eh bien, cette esquisse pour le progrès humain, il a écrit persuadé que l'humanité allait devenir une humanité libre par le savoir, mais que pour l'instant la conjoncture ne le permettait pas avant donc de se suicider. Il fallait qu'il ait l'utopie de la liberté chevillée au corps pour pouvoir écrire ceci dans une période où on pensait que tout était possible. C'est de cette période-là dont je parle, qui ouvre des horizons absolument extraordinaires. Puisque, comme le dit Quinet, la révolution a ouvert la voie à l'impossible. L'émancipation, c'est précisément une utopie impossible, et c'est ce que perçoit Bernard Lazare un peu plus tard, lorsque, par exemple, Condorcet expliquait ce que je disais très rapidement et mal en deux mots tout à l'heure. Condorcet explique que le progrès, c'est-à-dire tel qu'on le conçoit aujourd'hui, est une nécessité humaine. Le progrès consiste à s'émanciper soi-même par la lecture, par le livre, mais bien entendu à condition que cette lecture puisse faire l'objet d'une discussion, d'un débat avec plusieurs. Donc c'est aussi une émancipation collective à plusieurs, de façon à ce que on puisse, en toute connaissance de cause, comprendre la société que l'on construit, la société dans laquelle nous sommes, et lui, dans son esquisse pour le progrès humain, en profite pour critiquer la totalité de ses contemporains, y compris ses contemporains qui ont cru libérer ou découvrir l'Amérique, dit-il, dans la mesure où ceux-ci ont imposé une civilisation de manière violente et les accusent de barbares. Bref, il fait une critique totale de la civilisation antérieure, parce qu'à cette époque-là, on prend conscience que l'humanité arrive dans des sociétés qui sont déjà préconstruites par d'autres humains. Bref, l'homme est responsable de son passé, mais donc de son devenir. Raison pour laquelle des gens comme Condorcet imaginent un devenir extrêmement vertueux, utopique certes, mais où on imagine que le bonheur humain est de l'ordre du social, avec la totalité des individus, puisque Condorcet fait partie de ceux qui étaient très anti-esclavagistes, avait écrit préalablement à la Révolution un livre contre l'esclavage des Noirs, qualifié de crime, était aussi, bien entendu, très ouvert à la totalité de la totalité des individus aussi différents eux-mêmes que soi-même, et que les femmes étaient considérées aussi par Condorcet comme des égales de l'homme. On n'a pas entendu Condorcet, sauf que dans ces années 30, on revient là-dessus, et la totalité des individus essaye de réfléchir sur ce que ça implique. Il y a une prise de conscience aussi de l'antisémitisme, et donc à l'intérieur des saint-simonismes, il y a cet îlot qui n'est absolument pas critique à l'égard des juifs, mais c'est un îlot absolument dans la totalité des sociétés qu'on s'aperçoit que les juifs sont aussi malmenés au XIXe siècle, après justement le droit accordé aux juifs, tant et si bien que, je reviens à Bernard Lazare, considère que l'émancipation, l'exigence qu'il défend après l'affaire Dreyfus, est une exigence qui a servi de modèle aussi à toutes les féministes, puisque l'émancipation consiste, j'insiste, après Bernard Lazare, à se libérer soi-même des tutelles de la tradition, donc disait que les juifs eux-mêmes devaient s'émanciper de cette tradition qui était quelquefois assujettissante, et retrouvant la tradition de la lecture du livre, et en particulier de la Torah, qui consiste à interpréter, c'est ça qui revient justement en force pour comprendre ce que ça veut dire que s'émanciper par la lecture, et débattre, c'est-à-dire dans un collectif. Et en même temps, il explique que la communauté qui le reçoit doit être une communauté qui accepte la diversité. Sauf que cette dimension-là exigeante où tous les individus sont égaux et qui collectivement a conscience qu'ils sont responsables de l'histoire, c'est les hommes qui ont construit l'histoire et c'est les hommes qui sont responsables du devenir humain, donc demande une lucidité collective et demande bien entendu une instruction collective suffisamment développée pour faire en sorte que la totalité des individus soit au même niveau, puisqu'il ne peut y avoir d'émancipation totale que dans un cadre collectif, donc comme la Grèce antique, où on délibère. Qu'est-ce que c'est que s'émanciper politiquement? C'est que chacun délibère dans un cadre collectif, et c'est qu'en dernière instance que le vote intervient. On est même en capacité de revenir sur la décision qu'on a prise, considérant que cette décision n'est pas adéquate. Ça signifie donc une exigence permanente qui, peu à peu, se heurte à la société telle qu'elle est définie. D'abord en Angleterre avec la Révolution industrielle, on a bien vu que la Révolution industrielle était l'équivalent de l'exploitation de l'homme par l'homme, malgré cette visibilité très lucide d'une partie de la population exploitée. Il se trouve que le libéralisme en France a fait la même chose, c'est-à-dire une révolution industrielle qui impose une société de domination où le libéralisme économique est l'équivalent du libéralisme politique, mais ça suppose une société hiérarchique où les uns dominent l'autre. Et donc on pense l'école ailleurs, comme en France, hein, en Angleterre on l'a déjà pensé dans ces termes, en France ensuite avec l'invention de l'école primaire par Guizot, en faisant en sorte que plutôt que de tenter d'émanciper les individus par eux-mêmes, c'est-à-dire en leur apprenant à lire dans le livre et d'autre part à essayer de réfléchir par soi-même, on invente la servitude volontaire, c'est-à-dire on fait en sorte que les individus puissent en fait se considérer comme à demi émancipés, dans la mesure où ils passent les trois quarts du temps au travail, ils ne peuvent pas faire en sorte d'être au même niveau que les autres classes sociales, et donc on leur apprend à librement se soumettre. Bref, la totalité des multitudes, on leur a appris simplement à l'école suffisamment à demi, de façon à ce qu'ils reconnaissent les qualités supérieures de ceux qui les représentent. On invente la représentation au fur et à mesure que l'émancipation a été répandue, que l'idée d'émancipation a été répandue, et on essaye de construire une communauté des semblables, cette communauté des semblables dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. Nous sommes les héritiers de cette représentation qui a imposé une similitude entre république et démocratie, et nous sommes les héritiers de cette servitude volontaire où les individus apprennent à déléguer leur pouvoir, non pas à s'émanciper, mais à déléguer leur pouvoir. Et donc les leçons de Bernard Lazare, comme les leçons de Condorcet, sont totalement méconnues aujourd'hui, et tant et si bien qu'on a oublié ce que émancipation voulait dire. Émancipation voulait dire, donc, avec cette dimension bien connue dans Condorcet, qui séparait l'éducation de l'instruction. L'éducation, disait-il, appartient à la famille, l'instruction appartient au public, parce qu'il faut instruire l'individu pour faire en sorte que celui-ci puisse justement s'auto-organiser et faire en sorte que tous, contrairement à ce que pensait Sieyès, puissent être candidats au gouvernement de la société. Comme vous le savez, ce n'est pas du tout ce qui a été fait. On a construit cette communauté des semblables. Donc, qu'est-ce que c'est que cette communauté des semblables dans laquelle se heurte justement l'intégration, comme l'avait imaginé Bernard Lazare, l'intégration d'une société, ça suppose, normalement, si on avait suivi les leçons de Condorcet, eh bien, on aurait fait une société de gens multiples, d'origines différentes. Mais ce n'est pas ce qu'on a eu, cette communauté des semblables qui, avec les principes liberté, égalité, fraternité, qui sont restés les principes, a colonisé, a exploité, a réduit la Terre à sa plus simple expression, puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, les ressources terrestres sont épuisées. Et donc, essayer de s'interroger sur cette communauté des semblables. Alors, avant de continuer sur la communauté des semblables, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on discute pour revenir là-dessus. Parce qu'il vous manque peut-être des éléments historiques, dans la mesure où j'ai traversé à grands pas.
République et démocratie. Vous pouvez développer un petit peu...
Bah, la République... La
parce que c'est un sujet qui me turlupine depuis très longtemps.
Si vous voulez, on fait en sorte que République et démocratie soit confondu, parce qu'on veut croire qu'on est en démocratie, alors qu'on n'est pas en démocratie. On est dans une démocratie dite représentative. République, c'est un régime politique, c'est tout. La démocratie, c'est quelque chose de pratique. C'est une mise en œuvre d'une idée qui consiste à auto-organiser les sociétés, c'est-à-dire faire en sorte que les sociétés s'auto-gouvernent. Et là, il faut revenir donc aux origines de la démocratie athénienne. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps de Christophe Peybart qui revient sur la démocratie athénienne et qui dit que la démocratie, c'est une forme d'apprentissage permanent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la démocratie a existé longtemps à Athènes, enfin pas très longtemps, mais elle a existé quand même au moins dans son apprentissage et dans son mouvement. C'est un mouvement permanent où les individus s'organisent et donc délibèrent, débattent et en dernière instance légifèrent, s'auto-gouvernent. C'est ça la démocratie. La démocratie, ça veut dire le gouvernement du peuple par le peuple. Et donc...
Il y a un problème. Démocratie, si on prend l'étymologie, donc pouvoir du peuple, mais à Athènes, c'était une démocratie de patriciens.
Non, bien sûr, c'était pas un régime républicain au sens où on l'entend maintenant. C'est un régime politique et social fondé sur des différenciations. Les femmes n'avaient pas le droit à la citoyenneté, les métèques non plus, mais les métèques n'avaient pas le sens dont on parle aujourd'hui. Et d'autre part, ce n'était pas les praticiens, c'est les patriciens, c'était vraiment le peuple qui travaillent, quoi. C'est-à-dire, ils se réunissaient régulièrement. C'est un peu comme Rousseau qui explique que la démocratie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible délégation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Pour Rousseau, la démocratie était impossible parce qu'il n'y avait pas de délégation. Et s'il a imaginé le gouvernement de Pologne, c'est pour faire en sorte que... Essayer d'imaginer une démocratie réelle avec la totalité des individus présents et donc faire en sorte que les gens se connaissent pour pouvoir délibérer en toute connaissance de cause. Et comme Peybart l'explique dans son livre sur la démocratie athénienne, il l'a fait comme Nicole Leroux, c'est-à-dire qu'il a utilisé, parce que les traces antiques sont très très faibles, il y a très peu de traces. Tout récemment, par exemple, une historienne de la Sorbonne a découvert que la place des femmes était beaucoup plus importante qu'on imaginait. Elles avaient un rôle religieux beaucoup plus important. Alors, elles étaient exclues du politique, comme les métèques, mais il y avait la population vraiment de... Bien sûr, c'est une civilisation fondée sur l'esclavage. Ça, il faut lire Aristote pour comprendre comment les mécanismes fonctionnent. On n'est pas du tout dans la démocratie moderne. La démocratie moderne a été imaginée par Rousseau, en particulier au XVIIIe siècle, dans cet élan du siècle des Lumières, qui consistait à lutter contre l'arbitraire et qu'on le veuille ou non, d'imaginer une société à la Kant, où les individus se libèrent eux-mêmes des tutelles dont ils sont responsables. Et tout ceci a abouti avec le primat de l'économie, avec la révolution industrielle, a abouti en Angleterre avec l'idée de représentation. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous avez théoriquement une démocratie possible avec Rousseau, qui considère qu'aucune délégation de pouvoir n'est possible, sinon il n'y a pas de démocratie. Et puis, entre-temps, il y a cette révolution qui change les propriétés, qui bouleverse... justement les classes sociales, qui fait en sorte que la bourgeoisie soit considérée comme la classe vainqueur de la révolution, et la force des choses va l'emporter, l'économie va l'emporter. Et l'économie ne suppose pas de démocratie avec la révolution industrielle, c'est la raison pour laquelle le libéralisme se met en place parallèlement à la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle suppose la domination et l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce que théoriquement on n'avait pas prévu. Ce que théoriquement on n'avait pas prévu. Et du même coup, on essaye de mettre en place des régimes politiques, le gouvernement représentatif, au moment de la Restauration. Ensuite, Napoléon, lui, a laissé de côté cet aspect-là, mais a valorisé, s'il y a la révolution industrielle, a gagné en puissance, c'est bien sûr pendant le Second Empire. Et ensuite, avec les expositions industrielles en France, on a fait en sorte de valoriser la marchandise, on a fait en sorte de faire des prolétaires des consommateurs, toujours en pensant aux délégations de pouvoir. Et comme la République s'est imposée sur cette dimension-là, irrévocable, irréversible, on a imaginé un régime politique républicain fondé sur la délégation de pouvoir. Et on a appelé ça la démocratie représentative. Maintenant, on ne dit même plus démocratie représentative, on dit démocratie. Or, précisément, si on est dans une crise politique un peu partout, c'est que le peuple a été dépossédé de ses capacités d'autogouvernement, même si on imagine bien qu'une démocratie totale sans délégation est impossible, mais là, on peut en rediscuter, c'est largement débattu, etc., etc. Sauf que l'idée de délégation a été reprise en charge par la totalité des partis politiques. Donc, démocratie représentative, c'est compatible avec les monarchies constitutionnelles comme en Angleterre, c'est compatible avec la République, parce que ça n'est pas une démocratie, au sens... je dirais presque rousseauiste du terme. Alors vous allez me dire, Rousseau pensait que la démocratie réelle n'était pas faisable puisqu'on ne pouvait pas déléguer, mais Rousseau s'est contenté de penser sans mise en œuvre. Or, avec la révolution anglaise, américaine et française, on s'aperçoit qu'on aurait pu mettre en œuvre une véritable démocratie à condition de penser l'instruction de manière complètement différente, c'est-à-dire... faire en sorte de conduire la totalité des individus à terme, pouvoir justement s'auto-organiser de telle manière qu'ils participeraient de manière beaucoup plus réelle aux gouvernants des hommes et ne pas déléguer leur pouvoir à des professionnels du politique. Alors c'est vrai que dans la pratique, dans la tradition historique, la démocratie telle qu'elle est née au sens étymologique supposait une toute petite communauté, des exclusions, etc. etc. Mais maintenant, même avec tous les avatars de l'instruction ou qui aboutit à la non-lecture par la grande majorité de la jeunesse ou presque, il n'empêche que l'éducation est telle, a réussi malgré tout à faire en sorte que les individus puissent débattre entre eux, malgré tout, en toute connaissance de cause. On pourrait imaginer, compte tenu de la crise écologique, crise sociale et crise politique, je vous entendais bavarder sur est-ce que c'est crédible ou pas les mesures de Musk ou les mesures de Trump. Donc, face à une réalité de ce type, je pense qu'il est plus que jamais nécessaire de réfléchir au niveau où nous sommes, y compris au niveau de la bibliothèque de l'instruction, que faire aujourd'hui, non pas que faire à l'aller nuit, mais que faire dans une situation où les ressources terrestres sont totalement épuisées et donc où on s'alarme lorsque la croissance ne dépasse pas 1%. Oui. Donc,
qu'est-ce que c'est?
Mais vous aviez une question, monsieur? Non.
Non, moi je suis très préoccupé par le rapport que les nouvelles technologies induisent entre l'individu et le collectif. Je pense en particulier au télétravail, par exemple.
Oui.
Un type de rapport qui est tout à fait inédit. Hein, je veux dire, et à mon avis, il y a très peu de choses qui ont été produites à ce sujet, comme analyse des phénomènes, par exemple, des silos au travers des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui est quand même tout à fait étonnant. Hein. Comme mode de fonctionnement et comme rapport à l'autre.
Absolument. Mais il me semble que le livre d'Empoli, là, l'Italien, oui. Les prédateurs, a abordé cette question.
Oui, oui.
Parce qu'il parle des prédateurs numériques.
Mmh. À mon avis, c'est irrémédiable en plus. On ne reviendra pas en arrière. Je veux dire, c'est pas...
Ben, c'est quand même une vraie donnée existentielle, comme vous disiez.
Oui, mais c'est compliqué.
C'est passé là.
C'est l'isolement. C'est une complète contradiction. Il y a quand même un retour en arrière parce qu'ils sont en train de limiter à 2 jours le télétravail. Donc, ce que vous dites, oui, il y a un retour en arrière parce que finalement, le rendement, il paraît qu'il n'est pas meilleur avec le télétravail. Bon.
La prise de conscience est en train de se développer. Là, je dis, j'étais à Thionville, c'est le festival Politeia, c'était justement sur le progrès. Ils avaient organisé le festival de telle manière que chaque intervenant était chapeauté par un bénévole, il y avait 70 bénévoles, ça a été vraiment un festival énorme, et la personne avec qui m'était affectée, en 3 jours, on a le temps de discuter, et elle travaillait aux impôts dans sa profession ordinaire. Et elle me dit, vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens qui sont totalement étrangers au numérique. Elle passe son temps, en tant que responsable des impôts, à expliquer aux gens comment se servir d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect excessif d'écran, et puis l'autre aspect, toute une population qui est complètement... mise à l'écart.
Surtout les personnels.
Pas simplement, contrairement à ce qu'on pense. Oui, mais pas simplement. Vous avez aussi un certain nombre de gens qui travaillent dans des conditions un peu difficiles, qui sont complètement mis à l'écart avec ce que ça veut dire comme exclusion, quoi. C'est pour ça que je voulais discuter sur la communauté des semblables, parce que peu à peu, cette communauté des semblables, tout en donnant l'impression d'un élargissement parce que la mondialisation, parce que les modèles extérieurs font qu'on intègre toute une série de choses qui nous étaient inconnues. Maintenant, le fait d'apprendre les langues étrangères, c'est devenu naturel. Là, par rapport aux générations antérieures, énormément de jeunes savent parler au moins 2 langues. Alors qu'avant, il faut voir les aspects positifs d'une certaine manière. Mais c'est une autre communauté qui se constitue, toujours semblable. Alors, moi, j'ai travaillé sur cette question pour essayer de comprendre comment ça résistait, parce que c'est quand même quelque chose qui paraît totalement difficile à maintenir, dans un monde où la contestation est quand même relativement développée, où la tradition critique est quand même malgré tout présente, on n'est pas dans des régimes autoritaires. Donc, à partir du moment où la révolution a essayé de concevoir, enfin, dans la mesure où ce trauma a été relativement important pour un certain nombre de gens, c'est la raison pour laquelle, justement, des théoriciens comme Burke en Angleterre ont été très critiques à l'égard des révolutions, ont considéré qu'il s'agissait justement d'une négation de l'histoire, et lui voulait rétablir la tradition, le mouvement de l'histoire, le sens de l'histoire ordinaire, donc, et le maintien, c'est la souveraineté, c'est-à-dire que la souveraineté appartient au peuple, mais c'est une délégation de Dieu. C'est-à-dire, compte tenu de la mise à mal de l'existence de Dieu, à ce moment-là, il fallait absolument maintenir cette existence pour garder une tradition, un modèle de société. Et donc, la souveraineté, certes, appartenait au peuple, mais déléguée par Dieu. Et dans la mesure où Dieu, à ce moment-là, on a commencé à en faire un peu ce que l'on voulait, puisqu'on prenait conscience qu'il était une créature humaine, autant vous dire que ça a été l'occasion justement de multiplier les interventions jusqu'à, en France, l'Immaculée Conception, puisqu'on s'est rendu compte que la Vierge pouvait être un intermédiaire entre Dieu et les hommes, etc., etc. Donc, comment a été conçu de manière presque empirique, comme on dirait pragmatique aux États-Unis, cette communauté de gens capables ? Cette communauté de gens capables, eh bien, simplement, à partir du moment, je ne sais pas si vous avez en tête le tableau de David sur le serment du jeu de paume, vous l'avez en tête, vaguement, quoi. Hein. Donc, vous voyez que les gens qui sont au moment du serment du jeu de paume sont des gens qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une communauté, là, qui est en train de se constituer pour tenter, justement, de rompre avec l'arbitraire royal. Et, de fait, cette communauté, c'est celle qui représente le peuple, dans la mesure où une partie du peuple, quand même, comme en Angleterre, était une partie largement exploitée, illettrée, et juste capable d'exactions, puisque vous avez encore en tête, j'imagine, les exactions contre la noblesse et la bourgeoisie conquérante dans les provinces, avec violence qui remonte aux guerres de religion, etc., avec ce que ça implique comme forme de barbarie. Donc, se constitue dans la tête des gens un collectif d'hommes libres, je dis bien d'hommes libres, puisque les femmes tentent, que ce soit en Angleterre ou en France, tentent d'intervenir pour marquer en fait leur place dans l'espace public. Elles ont fait toutes sortes d'interventions, pas simplement en langue de gauche, mais pour montrer qu'elles pouvaient être citoyennes. Et on conçoit quelque chose qui est vraiment un hymne à la liberté. Alors qui est l'homme libre qui compose en gros les tableaux de et surtout les assemblées. Donc ces hommes libres, c'est d'abord les gens qui savent éduquer. C'est des gens qui ont non seulement été à l'école, mais qui ont participé au débat collectif et qui sont en capacité d'argumenter, puisqu'on sait bien que la démocratie, c'est d'abord d'argumenter au même titre que son voisin, avec les mêmes sens des mots, donc il faut les apprendre, ces mots. Donc, la liberté, c'est des gens qui ont de l'instruction, comme on disait dans l'Ancien Régime. De l'instruction, ça veut dire qu'ils sont en capacité de discuter au même titre que le voisin, et donc ils sont égaux en matière d'argument. Des hommes libres qui ont accès à l'instruction. Pour avoir accès à l'instruction, il faut du temps. Et ayant du temps, il faut un minimum, disons, de moyens pour pouvoir ne pas totalement travailler, puisqu'il y a un bouleversement, mais un vrai bouleversement. C'est-à-dire que lorsque Saint-Simon, par exemple, qui est un homme du temps, qui a participé y compris à la Révolution américaine, lorsque Saint-Simon s'en prend aux oisifs, c'est qu'il considère que les classes aristocratiques et les classes religieuses sont des classes inutiles, totalement inutiles. C'est donc le travail qui va devenir le modèle, en quelque sorte, de la société nouvelle. Et c'est à l'intérieur de ces classes qui travaillent que va se constituer une autre communauté également libre. Donc il faut accéder à la connaissance. Et pour pouvoir accéder à la connaissance, il faut avoir un peu d'argent. Donc les trois quarts du temps, le propriétaire, la propriété, vient toujours au début en disant c'est une... En fait, les bourgeois, ce sont d'abord des propriétaires. Non, ils sont d'abord instruits, ils ont du temps, et c'est parce qu'ils sont propriétaires qu'ils ont du temps. Et donc c'est l'homme instruit qui est en capacité de représenter les autres parce qu'il a suffisamment d'aisance et propriétaire. Se constitue comme ça, de manière implicite, un collectif de capacités. Et là, il y a une bataille dans la première moitié du siècle, parce que contrairement à ce que souhaitait Saint-Simon, les classes oisives ne sont pas mortes. On va constituer une classe de rentiers. C'est-à-dire la révolution industrielle va refaire en quelque sorte des classes favorisées avec des classes de rentiers. L'abolition de l'héritage était quelque chose qui devait aller parallèlement avec la nouvelle classe sociale. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire que la révolution industrielle a obligé à mettre le capital au même titre que le travail. Et du même coup, on a reconstitué une classe de favorisés. Alors certes, les religieux ont été mis à mal, avec en particulier la laïcité. Il n'empêche que, contrairement à ce qu'on avait prévu, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Seulement, les principes révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité, sur fraternité surtout en 48, restaient en l'état. Ça restait comme principe, et le peuple était toujours souverain. Alors ça a commencé à basculer un petit peu pendant un temps qui a abouti à la terreur, donc. C'est-à-dire qu'il fallait faire en sorte de définir le citoyen pas simplement celui qui sait et qui a une propriété, quoi. On ne pouvait pas faire un citoyen censitaire. Donc, ça s'est déroulé de manière pratique, c'est-à-dire au moment où la République a été proclamée, c'est justement les citoyens passifs qui se sont révoltés en disant « Nous, on porte les armes, et donc, il est normal qu'on soit citoyen. » Ils ont imposé en 92 la République. En imposant la République en 92, ils ont imposé une définition du citoyen qui était fondée sur la défense de la patrie, qui sortait un peu de cet élitisme, justement, de ceux qui savent. C'était la défense de la patrie, et du même coup, s'est constitué ce collectif avec l'idée des armes. Le citoyen, c'est le citoyen en armes, ce que Napoléon Ier a parfaitement perçu avec tout ce que ça implique. Et peu à peu, même le citoyen en armes va se laisser déposséder dans la mesure où la révolution industrielle implique donc un travail, et donc un travail et un temps de travail trop important pour qu'il accède à l'instruction. Parce que avec les principes, on voit bien que le citoyen doit aussi apprendre. Sauf que la révolution industrielle l'oblige à travailler 10, 12, 14 heures par jour. Et c'est là qu'on comprend que l'instruction ne sera plus le critère fondamental. Mais le critère fondamental, c'est celui qui a du temps. Du temps pour gérer la chose publique. Le citoyen actif, c'est celui qui a du temps pour gérer. Le reste, c'est simplement le citoyen qui sera protégé, le citoyen passif. Et donc, le citoyen actif, c'est celui qui a du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme le dit Alexis de Tocqueville dans La démocratie en Amérique, puisque lui pense que la démocratie est irrévocable, bien qu'il soit profondément aristocrate et anti-républicain, il considère que la démocratie est irrévocable, il va voir en Amérique, qu'est-ce qui se passe, et il constate que, bien entendu, il n'est pas question de donner la citoyenneté aux femmes, aux noirs, etc., etc., puisqu'ils sont en état de servitude ou de dépendance. Les femmes sont d'abord les Jacobins l'ont expliqué pendant la Révolution, ce qui conduit leur statut, c'est le statut naturel, c'est-à-dire c'est leur fonction naturelle. Donc, exclut les femmes, elles ne ressemblent en rien à cette communauté. Il est, au contraire, elles sont même le modèle inverse. Donc, il n'est pas question, et tout le 19e siècle, ça ne pose de problème à personne que les femmes ne soient pas citoyennes, parce qu'elles sont profondément différentes. Et lorsque Tocqueville va en Amérique, il va expliquer que un certain nombre de peuples ne peuvent pas, de gens de la multitude, ne peuvent pas accéder à la citoyenneté active parce que, quoi qu'on fasse, dit-il, jamais le peuple ne pourra être éduqué au même titre que l'aristocrate ou le bourgeois parce que le peuple manque de temps. Il passe le plus clair de son temps à travailler. Et c'est comme ça que la question de la représentation s'impose comme une évidence. La révolution industrielle oblige, bien sûr, le travail à s'accélérer de plus en plus, au point qu'à la fin du 19e siècle, on considère que les machines conduisent en quelque sorte l'homme à s'adapter à elles. Et aujourd'hui, on est au triomphe même, puisque avec l'intelligence artificielle, on estime que les machines peuvent parfaitement s'adapter au cerveau humain avec tout ce que ça implique comme dépendance. Et donc, cette communauté de semblables, elle suit la force des choses, elle suit cette dimension obligée qui fait que la civilisation est une fuite en avant vers un progrès non plus de l'esprit humain, mais du progrès technique. Et cette dépendance à la machine a fait en sorte que des chercheurs aussi importants mais méconnus comme Gunther Anders, qui dès 45, 40, dès 50 même, va commencer à expliquer, attention, danger, l'homme devient totalement dépendant de la machine. Et dans son livre remarquable, L'obsolescence de l'homme, il explique justement ce devenir que les gens ne veulent pas savoir. C'est-à-dire, il y a une dénégation du réel, lui prend le modèle, cette critique à partir de Hiroshima et Nagasaki, puisqu'il semble que la dernière bombe de Nagasaki, il est demandé que celui qui était responsable de ça, c'était Truman qui était au pouvoir, mais ce n'est pas Truman dont il parle, a demandé à la machine l'autorisation en quelque sorte. C'était déjà les premiers algorithmes. Et donc, Gunther Anders s'explique très bien qu'il y a une force irréversible qui fait que les hommes suivent en fait la force des choses et que cette communauté des semblables se reconstitue au fur et à mesure en s'adaptant à la machine. En s'adaptant à la machine, en essayant de contrôler le maximum et faire en sorte que les individus puissent effectivement être dépendants de la machine, tant et si bien que les hommes actifs, enfin les hommes au sens humain, les individus actifs, au sens capable de gérer la chose publique, se trouve toujours dans cette communauté des semblables, puisqu'il a été évident que tout le monde ne pouvait pas participer à cette gestion, et donc on a inventé la délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir qui était héritée de Dieu selon Burke, mais ensuite petit à petit s'est adaptée à la vie collective, à la vie humaine, donc la sécularisation aidant, et même pour les religieux, et on sait parfaitement que cette sécularisation est irréversible, mais cette sécularisation a aussi correspondu à la force des choses qui l'a emportée sur le reste. Et c'est la raison pour laquelle cette communauté des semblables ne peut accepter des gens différents. Ça a commencé avec l'impossibilité d'intégrer justement ces civilisations nouvellement libérées comme les anciennes colonies, etc., etc. À chaque fois, cette différence est de plus en plus accentuée, faire en sorte qu'elle reste entre soi. Et si on intervient, c'est comme ça que les femmes ont été intégrées. Elles sont intégrées si bien, mais elles n'interviennent pas dans la gestion, puisqu'elles ne sont pas représentées. Et en France, on a cette idée merveilleuse d'inventer un nouveau mot, puisque l'égalité ne fait pas sens. On invente la parité, ça veut dire égalité entre pairs. Ça veut dire que socialement, les femmes élues sont identiques socialement. Et vous regardez socialement les assemblées actuelles en France, eh bien c'est à peu près les mêmes socialement que la convention, la législative pendant la Révolution. C'est comme ça que se constitue la communauté des semblables. Et c'est comme ça que si la multitude ne prend pas conscience de son existence en tant que citoyen, eh bien, on est mort et on ira suivre les enseignements radicaux de Musk qui imagine qu'on ira un peu plus la planète Mars. Pas tous, bien sûr, parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'aller sur Mars.
Je ne comprends pas bien votre exemple là, des femmes, parce que si on regarde sur 50 ans, les femmes sont de plus en plus intégrées au rouage à la fois économique, politique,
oui, etc. Semblablement aux hommes, maintenant.
Oui, oui.
La parité, c'est ça.
D'accord.
La communauté des semblables, c'est-à-dire qu'elle ressemble de plus en plus aux hommes, d'accord, du point de vue des mécanismes du pouvoir.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez alors,
Moi, je ne souhaite rien du tout, je constate. C'est-à-dire que la communauté des semblables intègre des individus semblables entre eux. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que les individus qui sont intégrés à la communauté ressemblent socialement à cette communauté. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la ménagère, ce n'est pas le sans-papier, ce n'est pas l'émigré qui est élu à l'Assemblée. C'est une femme qui a reçu l'éducation, etc. C'est-à-dire que les femmes, comme les immigrés, comme tout ce que, n'ont pas le temps parce qu'ils passent le plus clair de leur temps à travailler. C'est pas les gens des LEP qui sont élus aux assemblées. Alors, effectivement, LFI va essayer de prendre, en particulier dans les quartiers, des représentants les plus représentatifs socialement, mais c'est une minorité. Et justement, cette femme de ménage qui a été désignée par elle n'a pas tenu le coup, quoi.
À vous entendre, effectivement, il y a eu des régimes républicains. Ma question, c'est, est-ce que vous qui êtes historienne, donc pas dans les théories de la démocratie, mais dans la réalité, est-ce qu'il y a eu de nos jours, au moins à partir de l'époque moderne et contemporaine, des
non.
démocraties ?
Aucune.
Aucune ?
Aucune.
Donc c'est encore une utopie pour les penseurs.
Non, mais c'est en devenir. C'est-à-dire que si vous regardez de près, là, ce qui se passe dans les quartiers, les petits villages, après les gilets jaunes, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des exemples de mise en œuvre de la démocratie authentique. Ils ont essayé, par exemple à Commercy, ils ont essayé de faire en sorte d'organiser la démocratie authentique qui était bien au-delà de ce qui s'était passé à Nuit Debout. Et puis, peu à peu, vous voyez, c'est pas simplement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, peu à peu, vous avez des exemples, par exemple, pour tenter justement de lutter contre les pesticides dans les campagnes. Vous avez quelquefois des comités de citoyens, là, on prépare les municipales, il y a de plus en plus de comités de citoyens qui s'organisent pour faire en sorte de gérer simplement le quotidien à l'échelle du village ou à l'échelle du quartier. Et je crois que si on était suffisamment à l'écoute de ce qui se passe dans les petites régions, c'est comme en Amérique latine, moi j'ai vu naître des collectifs en Amérique latine qui essayent de penser à une constitution avec la minorité, où le respect de l'individu est total, ou la liberté de la minorité, etc., etc. C'est exactement ce qui s'était passé en 1848. On est dans une situation tellement de désespoir économique et de désespoir écologique que si on ne réagit pas, ce n'est pas les États qui sont en train de mettre en place les mesures. Quand vous voyez que 63% des insectes ont disparu, que les terres, qu'il y a des guerres pour justement récupérer les énergies des terres rares, regardez l'accord qui vient de se dérouler entre l'Ukraine et la Russie, c'est quand même suffisamment éloquent. Les guerres se préparent pour récupérer les dernières ressources qui subsistent. Donc si il n'y a pas cette réaction collective à l'échelle locale, à l'échelle de la vie humaine, ben je crois que la mort est assurée pour les civilisations à venir. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. La démocratie, c'est l'auto-gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte que les individus... L'expérience de Commercy, par exemple, a donné un certain nombre d'entre eux, se sont totalement investis dans les municipalités. Il y a un de ceux qui est à l'initiative des Gilets jaunes de Commercy, qui, eux, s'occupaient davantage d'autogestion à l'intérieur de la ville de Meuse. Je ne sais pas si vous connaissez Commercy, bien sûr, vous le connaissez par les Madeleines. Mais Commercy, c'est aussi une tradition qui se voit dans le sol. Hein. On voit la guerre de 14, elle est encore géographiquement, ça se sent, c'est la Meuse. Et il y a une tradition collective qui est assez extraordinaire. Bref, un des responsables de Gilets jaunes de Commercy, un des initiateurs, a opté pour, dans son petit village, il s'est présenté aux élections, et il a passé contrat avec ses mandants, et donc lui n'est que l'exécuteur. Ça veut dire que toute décision s'est prise par le collectif des citoyens. Mais vous savez comment ça fonctionne, maintenant c'est la communauté de communes. Ça veut dire qu'à chaque fois que la communauté de communes prenait une décision, il demandait un laps de temps pour aller rendre des comptes à ses citoyens, tant et si bien que la communauté de communes a été obligée de faire à peu près la même chose. J'imagine qu'il peut prendre des décisions quelquefois qui vont à l'encontre de ceux auxquels il adhère. C'est ça la démocratie, c'est un apprentissage permanent. Et donc, je pense que là-dessus, on a des leçons à prendre compte tenu des situations urgentes qui se déroulent aujourd'hui.
Bon, merci.